Bienvenue et asseyez-vous confortablement au coin du Checkpoint, un podcast créatif où nous explorons le lore, la narration et le worldbuilding des jeux vidéo et autres interactifs, le tout autour d'un confortable feu de camp. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en ajoutant une note ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify, et si vous le souhaitez, rejoignez notre Discord afin de participer à son évolution. Sans plus attendre, installez-vous confortablement et commençons l'épisode. Déjà, coucou tout le monde.
Bonjour.
On a un nouveau concept. Et en fait, c'est un concept où on voulait faire un format un peu chit-chat, libre, juste entre nous, tranquille. On va avoir un format un peu doudou, où on se retrouve un peu l'esprit des premiers épisodes avec un peu plus de digression, un peu plus d'histoire, un peu plus de prise de parole et de coupure les uns les autres, parce qu'on aime la digression.
Le chaos.
Mais voilà, un peu moins scolaire, un peu plus, on garde un thème en général et ça reste informatif. Et on va aussi généralement essayer d'avoir, pour les marshmallows, un invité ou une invitée autour du feu avec nous, afin de parler voilà, de leur travail, du petit monde de la création d'univers. Donc on reste quand même dans le thème au coin du checkpoint, mais voilà, plus libre, plus tranquille, un peu plus court.
Pour vous donner une idée en chiffres, Jack No passe de 10 pages de préparation à une, voilà.
Exactement.
Et toi, elle passe de combien à combien
de préparation de deux doigts à un doigt.
Jack No prend des vacances.
C'est vraiment l'hôpital qui fout de la charité.
En fait, ça m'est venu en mode, il faut vraiment que je ralentisse un petit peu au cours du checkpoint, il faut que je travaille un peu moins les épisodes, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, et l'idée des marshmallows est arrivée. Alors c'était débat.
Le temps est resté cool.
Marshmallows, c'est Matt qui a eu l'idée. C'était quoi le nom que j'avais au début?
T'avais proposé...
Flamme et flânerie.
Ouais. Flamme et flânerie, ouais, c'est ça. Ouais.
Donjons et discussions.
Donjons et discussions.
Donjons et discussions.
Pas mal.
Il est pas mal aussi, j'aime bien. Ouais.
Vous avez entendu sa petite voix. On a l'invité du jour qui est Velvet Wombat. Comment ça va, Wombat?
Ça va très bien. Et vous?
Je t'appelais Wombat, un mélange de.
Un mélange de Wombat.
De Wombat, de Wombat, de Velvet.
Ça fait un peu penser à Wombat, j'aime pas trop.
Ouais, j'y ai pensé, je l'ai pas dit. Ça, ouais, ouais.
Velvet, j'ai voulu te présenter vite fait. J'ai vu du coup ton description Twitter que j'ai compris à moitié. Tu es MJ et MC de Au Confins des Brumes. C'est quoi MC?
Maître de cérémonie.
Oh, mais d'accord. Et ça veut dire quoi exactement?
À tout et rien en fait. C'est en fait, c'est il y a certains jeux de rôle qui utilisent ce terme pour maître de jeu quand c'est moins directif que d'autres.
D'accord. C'est plus pour des murder parties peut-être ou ce genre de.
Non, certains jeux de rôle est juste que j'aime beaucoup le nom.
D'accord.
Ça fait classe, ça fait un peu les Césars.
Moi, je crois que tu donnes des cours à l'université, moi.
Oui, c'est 6 mètres de conférence, c'est vrai.
Ah oui, c'est ça. Pas conférence, ouais.
Donc voilà, tu veux parler un peu de Au Confins des Brumes?
Alors, c'est ma chaîne YouTube slash peut-être un jour un site internet qui est actuellement au point mort, soyons francs, mais qui reviendra sûrement vu que mon coéquipier me pousse.
Ouais.
À la base, c'est une chaîne YouTube dont le but est de faire découvrir des petits jeux de rôle à plein de personnes, dont l'inspiration était, c'est Level 1 de Marcus.
Oui.
Ah oui.
C'est la bonne époque.
Donc, tu veux faire la même chose pour du jeu de rôle, en fait, faire OK, on vous prend, vous êtes des aventuriers, vous êtes niveau 1, on se lance, je connais à peine le jeu, vous connaissez à peine le jeu, qu'est-ce qui se passe?
D'accord.
Et là, ça va se diversifier, on veut partir un peu plus dans des articles qu'on va écrire de fond, entre guillemets. De la littérature aussi, parce que mon coéquipier, on va l'appeler comme ça, adore écrire. Et on ne sait pas tout reste à inventer.
Ok, okay. Bah, c'est ouvert.
Et puis là, c'est le champ des possibles.
Tu as un peu plus de temps devant toi, donc ça va peut-être être possible.
C'est ça.
Et pourquoi je t'ai invité aujourd'hui?
Ah, c'est à toi de me le dire, c'est toi qui m'as invité. Sinon, c'est parce qu'on va parler donc du... Je balance le thème, on va parler des trigger warnings et de la sécurité émotionnelle. Et il se trouve que je suis l'un des personnes qui en a parlé sur le Discord et le seul qui osait accepter l'invitation, même si je me sens...
C'est vrai que j'aurais voulu qu'on ait aussi une fille qui vienne en parler, mais du coup, bon, tant pis. Je t'ai invité aussi parce que c'était le tout premier MJ avec qui... avec qui j'ai fait une partie qui m'a proposé, enfin qui m'a envoyé un MP juste avant la partie pour me dire est-ce que tu as un trigger warning que je dois savoir avant qu'on commence. Au début, j'étais pourquoi tu me demandes. je sais pas pourquoi. Et après, je me suis dit ok, c'est vraiment très sympa de me demander. Enfin, c'était très comment dire. Personne ne m'avait demandé avant. Je me suis dit en fait, c'est très attentionné de ta part. Et finalement, en fait, c'est quelque chose qui revient souvent dans le Discord. Donc voilà, je suis aussi autour du feu avec Matt, qui fait beaucoup de LARP.
Salut à tous.
qui est en train de texter pendant qu'on fait l'épisode. Et avec Sky.
Bonjour.
La team habituelle qui avait aussi fait un petit peu part au débat. T'avais dit que t'avais eu une mauvaise expérience avec un groupe de joueurs externes et qui avait pas checké tes...
Ah oui, ça,
TW.
Oui.
Je pense que t'auras tes...
Oh non, mais ça, c'est TW de la ville, hein, qui checkait pas, hein, les gars. Hein, enfin, ils étaient doués, hein, c'était un art. Hein.
Donc voilà, on va parler de Trigger Warning, TW dans son acronyme que tout le monde ne connaissait pas non plus.
Non, je connaissais pas, effectivement.
Et c'est un truc un peu hot en ce moment, tout le monde en parle. C'est un peu plus sur la table que, on va dire, dans les jeux de rôle des années 80.
Je me permets de dire, il y a aussi un terme français qui est la sécurité émotionnelle.
Ah, okay. D'accord.
Ok.
Je connaissais pas du tout.
C'est un peu plus large que juste le trigger warning, mais c'est...
Ouais. Ça se tient.
Ouais.
Surtout que c'est pas limité aux jeux de rôle. Hein. Il y en a énormément dans les...
Tout type de médias à consommer, en fait.
Ouais. De médias, les fanfictions, notamment, font ça énormément.
Ah
aussi.
Oui, ils le font. J'allais dire, je le trouve pas dans la lecture, mais seulement dans la fanfiction.
Bah, fanfiction, ouais. J'ai jamais le souvenir d'avoir vu, effectivement, en achetant des romans ou des machins, mais pas dans les bouquins.
Alors que pourquoi
mais
pas,
c'est vrai que quand tu regardes les fanfics, t'as attention... Alors, pour tout ce qui est contenu sexuel, c'est évident, effectivement, mais ça a beaucoup plus loin que ça. Ça parle de suicide, attention, ça parle de machin.
Violence psychologique.
Et t'en as, en fait, surtout sur AO3, Archive of Our Own, où t'as des tags, en fait, qui permettent de taguer, mais t'en as certains qui les rajoutent en plus au début de chaque chapitre. Attention, dans ce chapitre, on va parler de ça, machin. Et t'en as même qui vont jusqu'à dire si jamais vous voulez pas. Arrêtez-vous à ce mot-là et recommencez à ce mot-là.
Bah notamment Webtoon comme éditeur le fait sur chacun de ses Webtoons quand il y a un chapitre plus violent, plus si, ça c'est précisé en début de chapitre à chaque fois, ils disent attention, violence comme ça.
Avant, ils le faisaient... par exemple, effectivement.
Avant, ça le faisait beaucoup pour des questions de santé sur tout ce qui était médias, mais attention, flash thromboscopique, si vous êtes épileptique, il faut pas et tout.
C'est vrai.
Et en fait, maintenant, on s'est dit, bah, c'est bien de réserver la santé physique des gens. Mais la santé mentale aussi, c'est pas mal à garder.
It's a thing.
Donc, si on peut les protéger, allez, on le tente, allez.
Je vais vraiment faire l'avocat du diable sur cet épisode. Hein.
Ah ouais, moi aussi, je vais me le faire parce que je faisais la part... Bah, je vais exagérer, mais...
Tu vas te faire l'avocat du diable.
Je vais me faire l'avocat du diable. Mais en tout cas, à l'époque, je me rappelle quand on était petit, c'était surtout dans les jeux vidéo, il y avait des PEGI. Donc t'avais certains
noms. Ils sont encore.
Voilà, mais t'avais pas les vignettes qui disaient ce jeu c'est PEGI parce que violence, parce que tu shootes des gens dans la tête ou parce qu'il y a des scènes sexuelles, etc.
Déjà, t'avais les catégories PEGI.
Ouais, t'en avais où il y avait violence, présence de drogue, effrayant. Il y avait quelques pictogrammes.
Violence, langage grossier, peur, hasard, sexe, drogue, discrimination.
D'accord. Ah,
dans les films, mais dans les trucs à l'époque. Hein,
ça c'était dans les films, non?
Moi je les voyais sur les pochettes de jeux.
D'accord.
Mais il y avait des jeux qui incorporaient des éléments racistes ou quoi et tout, et ils en avaient rien à foutre. Bah, des fois, le PEGI, il screenait vite fait, tu vois.
Baldur's Gate 3, j'ai regardé, il n'y a pas le PEGI discrimination, alors que c'est quand même l'un des thèmes principaux du jeu.
Si
tu joues un draw, prépare-toi. Hein,
c'est intéressant, ça.
C'est marrant, moi, je joue un draw et j'ai vu aucun problème jusque-là. C'est incroyable, mais zéro souci. Alors peut-être parce que je joue un jeu dur, j'ai que je bute tout le monde aussi en même temps, c'est peut-être pour ça.
Bah, si t'as pas d'interaction sociale, y a pas de problème dans l'interaction sociale.
Mais zéro problème.
Ok.
Bref.
Mais il me semble que les drows quand même, parce que moi j'en ai rencontré quand tu descends dans les sous-sols, les drows c'est des personnages que tu massacres directement sans leur parler.
C'est des esclavagistes.
C'est ça parce que vous avez pas joué de barde, parce que moi je parlais à tout le monde, avec intention de le tuer ou pas, je leur parlais. Tu vois.
Alors, moi je joue un drow barde.
Un drow barde ou un drow barde?
Un barde drow, dans ce cas ça marche plus. Enfin bref, petit aparté mis à part.
En tout cas, c'est le débat a été lancé parce que quelqu'un sur le Discord a dit « Je viens de lancer Stray Gods et il y a un menu pour accéder au trigger warning présent dans le jeu. Parenthèse, c'est ça qu'on veut tout le temps, partout. » Et là, je me suis dit,
d'accord.
Et du coup, j'ai questionné un petit peu la phrase en demandant, ok, si Stray God, c'est un bon cas d'école pour le trigger warning. Alors, dans le jeu vidéo, dans quel cas, pour vous, c'est le mauvais cas d'école? Quel jeu vidéo vous a vraiment marqué comme étant un mauvais cas d'école pour le trigger warning? Et du coup, chacun a partagé un petit peu son expérience en donnant leur avis. Voilà, j'ai trouvé ça très constructif et on s'est dit, ok... allez, on va faire un épisode, et puis comme ça, pour les game dev et pour les MJ qui nous écoutent, bah, je pense que vous auriez des choses à apprendre de connaître l'expérience des gens. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de lancer l'épisode.
Notre première Marshmallowry.
Notre première Marshmallowry.
Sur un sujet bien léger, bien joyeux, parce qu'on aime bien ça. Tranquille, le trigger warning.
Ouais. Petit tour de table, comment vous approchez ça, chacun, parce que vous êtes tous, toi Marc tu fais du LARP, Velvet tu es MJ, Sky tu fais beaucoup de campagnes de jeux de rôle, comment vous approchez ça?
J'ai fait une campagne, mais je fais beaucoup de jeux de rôle.
Oui, mais tu en fais régulièrement avec tes copains, il me semble. Tes copains.
Je les force à se réunir, comme ça je peux pécho des elfes, et c'est bien.
Est-ce que tu trigger warning ou tu connais déjà tes potes à l'avance et t'as pas besoin?
Nous ça va parce qu'on se connaît depuis super longtemps, c'est les best bros depuis 7-8 ans, donc on sait vraiment jusqu'où on peut rire et tout, et surtout genre des fois on fait des trucs atroces dans le RP, enfin en vrai pas tant que ça notre groupe, mais j'ai un groupe de potes qui fait des trucs atroces, et on sait qu'ils sont pas sérieux parce qu'on les connaît, tu vois. Genre à un moment ils viennent, ils sont c'est trop marrant, on a cramé un village, et on sait très bien que eux ils le prennent pas au sérieux, ils sont en mode c'est full fiction, et enfin tu vois, genre c'est déshumanisé et déconnecté à un niveau 1000, mais alors que nous dans notre groupe, dans notre campagne, on est bien plus proche de nos persos et tout, et du coup tuer quelqu'un c'est impliquant. Sauf si c'est un random qui nous a attaqué, ou là il y a notre druide qui s'en sort en vélociraptor et qui le mange, mais ça c'est autre chose. Et on a un rapport plus proche aux gens, et du coup on essaye de plus limiter les choses choquantes entre guillemets, tu vois. Alors là hier, pour faire un exemple qui est tout frais, hier j'ai failli date deux personnes. Et en fait, à la base, je voulais créer un plan à 3. C'est voilà, après. Et j'ai mixé up les adresses. Et du coup, il y en a un dans une taverne et l'autre dans l'autre taverne. Et mon groupe était choqué que j'en ai besoin d'un. Et en mode, bah oui, mais je peux pas aller aux deux endroits en fait. Donc, alors, tant pis.
Pour la petite anecdote, j'ai un pote qui a fait ça en vrai. Il était étudiant à Melbourne à l'époque, quand on était en échange. Et en fait, il avait deux dates le même soir. Et les emmenait dans des discothèques différentes à 20 mètres l'une de l'autre. Et il disait à une meuf, attends, je mets une clope, et il courait jusqu'à l'autre. Et il a passé deux heures à passer de l'un à l'autre comme ça.
C'est un scénario de film.
Pas mal.
Est-ce que ça a fini en plan à 3? J'ai besoin de savoir.
Avec Nico, il y a moyen, ouais. ce mec-là était incroyable, dans tous les sens du terme. On a vu Jackno se faire un facepalm à la caméra, c'était très drôle.
Mais du coup, ce simple fait de poser un lapin, ça a choqué entre guillemets mon groupe. Ils sont en mode, mais non, tu peux pas faire ça, frère, c'est horrible. Donc, tu vois, il y a vraiment, en fonction des groupes de gens, vu qu'on se connaît, on sait où on peut mettre la barre de RP et à quel niveau on peut faire des trucs comme ça. Mais le problème, c'est quand t'as des inconnus, entre guillemets, des gens que tu connais pas trop, ou alors que t'as chatté vite fait comme ça, deux secondes.
Avant qu'on commence, qu'on embraye, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est que le trigger warning et. Je sais pas par où commencer.
On connaît tous le trigger warning, il y en a déjà au cinéma ou à la télé. Rien que sur Netflix, il y a ces petits tags en haut qui apparaissent, drogue, violence, tout ça. Ça, c'est un trigger warning, c'est quelque chose qui dit dans cette œuvre, il y aura quelque chose qui peut choquer certaines personnes, du sexe, de la violence, de la drogue.
C'est un moyen de dire à quelqu'un, c'est à ça que vous vous embarquez, c'est cette expérience qu'il va y avoir. Si vous voulez partir, c'est le moment de partir.
C'est une comparaison un peu à la con, mais c'est un peu comme la posologie sur les médicaments. En mode, attention, il y a ça qui peut se passer. Pareil, il y a ton film, attention, dans ce film, il y a ça qui peut se passer. Donc si c'est un truc qui est dangereux, qui n'est pas compatible avec toi, ne le fais pas, ne regarde pas.
Mais en allant même plus loin, ça va jusqu'au fameux moins de 12, moins de 16, moins de 18 sur le programme télé quand on était gamin.
C'est un trigger warning.
C'est le trigger warning, c'est attention, c'est voilà. Alors, en général, il y a effectivement un contenu général qui allait avec telle vignette. Donc, c'était moins 18, ça pouvait être soit du porno, soit de l'ultra-violent. Moins de 16, en général, c'est soit érotique, soit vraiment violent. Drogue, machin. Moins de 12, en général, c'était... Il y a des morts. Dans ces choses-là. Mais rien que ça, c'est les trigger warnings, effectivement.
C'est marrant quand on mettait la sexualité plus choquante que la mort, déjà très vite.
Effectivement, c'est intéressant de dire que des mecs qui se font éclater la tête, c'est moins dérangeant pour des enfants que du porno.
Velvet, de ton côté, comment tu approches ça en général avec tes teams?
Bah, c'est un peu comme Sky, ce que Sky disait, j'ai ma team de joueurs habituels. Mmh. Alors autant avec eux, on est plutôt à l'aise, même si je les connais assez bien pour savoir qu'il y a des... Et surtout, je connais assez bien leur vie de tous les jours, pour savoir que par exemple, aujourd'hui, il ne faut pas que je parle de ça.
Ok, ouais.
Mais oui, c'est quand ça, c'est avec des gens que je ne connais pas ou peu, bah, comme la partie que j'ai fait avec toi, t'es là, tu fais ok, ma partie, elle va parler de ça, mais ça se trouve, pour ce que j'en sais, Jackno a une peur phobique de l'eau, donc on y va, on fait ok, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je parle ou que je parle pas? Et c'est, pour moi, c'est important, surtout dans le jeu de rôle, où contrairement à un film ou un jeu vidéo, c'est une personne qui fait l'histoire qui peut la changer.
Ce que j'ai trouvé très attentionné de ta part, c'était plus que, en fait, comme tu étais le MJ, j'imaginais que tu avais déjà un scénario décrit, que tu avais déjà une histoire, et que tu allais me dire, attention, il y aura de l'eau, pas, est-ce que ça te dérange s'il y a de l'eau? Et dans ce cas-là, j'enlève l'eau. Du coup, c'était une autre façon.
Ça peut aller dans les deux sens. Si tu me dis que, par exemple, on va raconter un peu l'histoire, ça se passait dans un marais, d'un coup, tu m'expliques que t'as peur des insectes et tout, bon, bah, on va éviter d'insister sur le fait que c'est un marais grouillant de vie. Et sinon, si tu me dis, ah bah non, je supporte pas ça parce que pour une raison X ou Y, tu peux faire, ok, bon, on va un peu changer de truc, le marais n'est pas obligatoire, on peut mettre ça dans un désert.
Non, c'est... parce que quand tu parlais de ça, j'étais en mode, on peut mettre ça dans un désert à la place. Tu mets du désert, je dis, ah oui, c'était l'alternative correcte dans ma tête.
Ouais. Toi, Matt, de ton côté, avec le lore.
Moi, je vais pas me faire beaucoup d'amis, moi, je pense, mais je suis pas hyper pour. Alors, effectivement, ça va dépendre du média et du contexte et de tout bazar. C'est pas la même chose à la télé que dans une lecture, que dans un jeu vidéo, que dans un jeu de rôle papier, que dans un LARP. Mais je vois le pourquoi, je vois la réflexion derrière. Mais j'ai toujours tendance à penser que on est dans une phase de la société où on a tendance à tout aseptiser au maximum pour essayer de plaire à tout le monde. Et qu'au final, on enlève énormément de choses.
Ma réflexion, pour pousser par rapport à ce que tu dis, Matt, c'est aussi, est-ce qu'il faut se cacher les yeux tout le temps sur ses propres traumas?
C'est un peu ça, ouais. Sans être rigide, il y a deux poids, deux mesures. Si t'as peur de l'eau, pour reprendre l'exemple, je suis désolé, mais on n'est pas dans un marais, là, on est autour d'une table. Si ça ne te va pas de parler d'eau, arrive un moment, il ne faut pas exagérer. Quoi. Si on est en LARP et que je te demande d'aller plonger dans un marais pour de vrai, il y a une différence dans le fait de te mettre face à ton propre trauma. Parce que voilà, c'est quand même pas le même poids.
Et puis ça dépend des scènes aussi, comme tu dis. Par exemple, on va parler de la scène d'Irréversible. Voilà, c'est bien d'avoir un petit trigger warning pour cette scène-là. Mais après, si c'est juste un petit truc dans un film avec de l'eau, ok, c'est bon.
Mais j'aurais tendance à dire qu'il y a effectivement un intérêt et que c'est important, mais je préfère quand c'est gardé d'une façon très générale, en mode attention, c'est réservé à un public mature, attention, c'est un film dur, attention, il y a de la mort, plutôt que partir vraiment dans des trucs précis qui, en gros, déjà te spoilent quasiment tout pour moi. Et puis derrière, qui au final font que si tu as 4, 5, 6 joueurs et que tu commences à partir là-dedans, et vraiment, tu peux plus rien faire parce qu'il y a trop de... Ça part trop dans tous les sens, quoi. Voilà, j'ai prévenu, je vais pas forcément me faire des amis, mais c'est un peu mon opinion.
Je me permets de réagir sur une vision du trigger warning que j'ai. C'est pas automatiquement enlever le truc, c'est que moi, ce que je disais sur le Discord par rapport à l'expérience que j'ai eue, j'ai un traumatisme, comme tout le monde en a un, et ça me gêne pas d'y être de l'affronter, mais j'aime qu'on me prévienne avant, quand ça me tombe dessus au coin, je suis en train de jouer un jeu tranquillou, et là, bim, il m'arrive dans la face, je le vis mal. Si le jeu me l'a un peu apporté petit à petit, je fais « Ok, ça va être chaud, j'ai compris, je prends sur moi, c'est même agréable, c'est peut-être pas le terme, intéressant, mais il y a une différence entre, je ne sais plus c'est qui parle de Stregod, mais ce qu'elle disait, c'est que le jeu commence par elle voyait le jeu comme quelque chose de très joyeux, très positif, très fun, et que ça commence par un meurtre, et ça fait une dissonance qui, pour moi, c'est ça l'intérêt du trigger warning, c'est juste, ok, je suis...
Alors pour moi, ça gâche le truc, en fait.
Ouais, mais en fait, moi, pour le coup...
Pour moi, ça gâche le truc, parce que...
Moi, le trigger warning, dans l'idée, je suis... En fait, je suis pour et contre. Je suis absolument pour parce que j'adore le fait que ça prévienne les gens, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin, il y en a d'autres qui en ont moins besoin, et ça, c'est à ta personne de le savoir. Sauf que je comprends aussi évidemment le point de vue que t'as, Matt, en mode des fois ça me gâche le contenu, parce que imagine tu regardes un film qui a l'air lambda et on te dit attention, il y a une scène de meurtre, je sais pas, Et en fait, tu savais pas, c'était un plot twist. Et du coup, c'est chiant parce que ça a gâché le plot twist.
Si au début de l'épisode 9 de Game of Thrones, t'as un trigger warning, attention, mort de personnages principaux.
Et ouais, le truc, Game of Thrones et les jeux vidéo, généralement, quand tu commences un jeu vidéo, tu t'attends à ce qu'il va y avoir un meurtre à un moment parce que on a construit les jeux comme ça, qu'il y a tout le temps des morts. Donc...
C'est un exemple parmi d'autres, ça pourrait être attention, il y a ci, attention, il y a ça. C'est voilà, juste comme ça. Mais du coup, moi, je suis pour la présence relativement précise de trigger warning. Pour les traumas et tout, mais juste facultatif.
Oui, dans une mission, voilà, dans la jaquette.
Tu vois, par exemple, on reparle de Stray Gods, de ce que j'ai compris, c'est que t'avais le menu au start, t'avais le start menu, et t'avais une option où tu pouvais aller check tes trigger warnings. Et du coup, quelqu'un qui a un problème avec certaines choses et tout, qui veut savoir, bah il va dans le menu, il check. Et quelqu'un comme Matt qui veut pas check, bah il check pas.
C'est une bonne idée, c'est
comme les trucs
sur l'accessibilité. Mais ça devrait
être
sur la jaquette directement, parce que t'achètes le jeu, et par exemple, toi, Velvet, t'as joué Return to Edith Finch, je me rappelle plus le nom. Ce jeu-là, bon, il se passe des trucs, mais t'aurais voulu le savoir avant que tu achètes le jeu, j'imagine que c'était ça, parce que t'as pas voulu continuer.
Alors, soyons francs, je n'ai pas lu le résumé du jeu, j'y suis allé parce qu'on me l'a conseillé, et dans mon cas, le jeu parle de mort tout du long. C'en est une qui m'a fait mal, mais pour le coup, j'étais... Alors, elle a tapé vraiment juste, on va dire, celle-ci. Ouais. Mais genre, j'étais quand même un peu préparé à l'idée, ok, tout le monde... Tu suis des gens qui meurent, et donc tu fais ok. Je ne te cache rien.
Ouais, t'aurais dû... Il devrait y avoir, je sais pas, un petit truc à gratter sur la jaquette.
Ouais, parce que la jaquette, que c'est pas caché, quoi. Bah, tu l'as sous les yeux.
Après aussi, est-ce que c'est si grave de ça? Enfin, est-ce que le spoil est si grave que ça?
Moi, je suis team spoil, moi, je me fous du spoil.
Ben, je sais qu'il y en a qui s'en foutent. Moi, pas forcément, mais, mais disons que je trouve qu'en fait, que les œuvres qui marquent, en tout cas, qui me marquent, sont des œuvres qui prennent pas de pincettes.
Oui.
Et je trouve que cette aseptisation systématique pour essayer de plaire au plus grand nombre, ça dénature énormément. Et si je fais un parallèle avec un autre débat qui est différent, mais pour moi, je vois le côté similaire. C'est avec le côté hardcore des jeux, type Elden Ring, machin, difficulté ultra hardcore. Ils disent, ah non, mais si on met des modes faciles pour plaire à tout le monde, ça dénature complètement la vision des développeurs. Pour moi, c'est un peu pareil. C'est que si tu commences à mettre des trigger warnings et à t'adapter à tout le monde, bah, ça dénature la vision. Et la différence, et c'est là où je rejoins Sky, c'est que pour moi, si Elden Ring et Dark Souls, j'aimerais vraiment un mode beaucoup plus facile, mais optionnel. Tout comme, effectivement, avoir des trigger warnings optionnels pour ceux qui en veulent ou qui en ont besoin, est pour moi une très bonne idée. Parce que comme ça, tu peux avoir ta vision sans la dénaturer, et tu peux aussi, en même temps, prendre soin de ceux qui ont besoin d'un peu plus de...
Ceux qui auraient besoin de pincettes, justement, peut-être que l'idée, ce serait, avant d'aller voir un jeu, de lire un test, ou peut-être voir s'il y a un truc...
Ah, pareil, par exemple, il y a quand même des dizaines de solutions sur comment fournir ça en fait à ceux qui en ont vraiment besoin, envie, sans avoir à le coller devant à la face de tout le monde.
Après là on est pour trouver des solutions, réfléchir à des solutions ensemble.
Je pense notamment quand vous faites vos sessions de jeux de rôle, notamment à toi Velvet, et c'est aussi ce que racontait Jackno. Je pense que quand tu crées quelque chose pour un public déjà établi, donc ton groupe de joueurs. Si tu ne les connais pas, tu peux facilement prévoir ça à l'avance et te demander est-ce qu'il y a des sujets que tu ne veux pas aborder. Parce que voilà, dans ce cas, tu peux créer ton truc en fonction de ces critères-là et de ces limites-là. Moi, franchement, je ne peux pas supporter la torture. Tu fais un jeu sans torture. Enfin, franchement, ça se gère, quoi. Après, si tu veux faire un truc D&D et que tu as quelqu'un qui te dit « Mais moi, j'aime pas me battre », bon, ça reste plus difficile, mais pourquoi pas. Mais quand tu veux faire ça pour un grand nombre, avec un public auquel tu n'as pas accès au préalable, donc quand tu crées un bouquin, quand tu fais un film, ou quand tu fais un jeu vidéo, tu n'as pas cette possibilité-là.
Cependant, là par contre, Matt, tu m'as raconté des histoires de ce qui s'est passé aussi de ton côté au LARP. Il y a des moments où tu aurais peut-être apprécié, ou certaines personnes qui étaient avec toi auraient pu apprécier d'avoir des trigger warnings avant d'y aller. Je pense notamment au fameux épisode du lapin, ou le moment où tu t'es fait un peu torturer. Je te laisse expliquer, mais il me semble que tu as aussi des bails de...
Ouais.
Tu aurais peut-être aimé savoir ce qui...
Ceux qui suivent le podcast depuis longtemps savent que j'ai fait du LARP, notamment un qui est connu sous le nom de la Witcher School, auquel je suis allé régulièrement en Pologne. Et la toute première Witcher School à laquelle je suis allé, c'était leur toute première internationale et elle était quand même assez hardcore. Avec le temps, justement, et les retours qu'ils ont eus, ils ont atténué le truc.
Je donne un trigger warning justement pour Velvet ouais. parce qu'il me semble qu'il avait un lapin.
Ouais.
Mais il s'est passé
ça va être un peu, ça va être un peu trash, ouais. Et en fait, mon tout premier cours, le tout premier jour, c'était un cours de survie en milieu naturel. Ça commence, ils nous filent des petits bâtons, de la ficelle, ils nous apprennent en fait à faire un feu de camp avec, avec juste une, de la ficelle et une, comment ça, flint.
Et un silex.
Un silex, et un silex. Chouette, tu vois. Et après, le prof, il nous a ramené un lapin. Lapin vivant. Et ensuite, il tient le lapin et il m'a filé une hache et il m'a dit direct sur la nuque. Et c'était pas une blague, quoi. C'était pas pour déconner. Alors, moi, je pensais au début que c'était pour jouer. Il fait non, vas-y, vas-y. Et effectivement, il a juste dit quelques minutes avant s'il y en a qui veulent pas voir ça, pas participer à ça, vous pouvez vous en aller. Donc, il a eu ce espèce de trigger warning avant. Mais c'est vrai que c'était assez extrême. Alors, après, justement, le lapin, il nous a appris à le dépecer et on l'a cuisiné nous-mêmes sur le feu de camp qu'on avait lancé avant. Et effectivement, c'était un lapin qui avait été élevé dans une ferme à des fins de nourriture. Mais c'est vrai que, bon, c'était un peu hardcore et que...
Et tu nous as raconté cette anecdote. Ça, ouais. On est allé boire des coups il y a 2 ou 3 semaines avec des amis. Bon, en tout cas, les filles et juste Matt. Et il a raconté cette histoire autour de la table. Et je crois que tout le monde a fait plus ou moins la même tête en mode genre... What? Tu l'as
ouais,
fait
ouais, super,
Et ta femme, il me semble, t'a dit plusieurs fois, pardon. Joris, t'as fait ça, pardon, Matt, t'as fait ça.
J'ai eu du sang sur la chemise pendant 3 jours.
Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient... Ouais,
ouais et pour la... Toujours dans le même épisode, en fait, à la fin du jeu, donc la fameuse épreuve des herbes, pour devenir un vrai Witcher, et donc en fait, il nous amène les yeux bandés dans une salle où il y a de la musique tribale, enfin musique, des sons tribales, des tam-tams, des hurlements, donc vraiment une grosse ambiance. Et ils t'attachent à une table en fait, ils font enlever mon t-shirt et ils m'attachent à une table les yeux bandés et ils commencent à me torturer parce que c'est censé être ultra douloureux. Alors la façon dont ils s'y prennent est assez intéressante au début parce que notamment je pense qu'ils utilisent une cuillère plongée dans l'eau froide en fait pour faire une espèce de... Bah, comme si tu avais l'impression d'avoir de te faire ouvrir... la peau ou autre avec cette sensation un peu froide, mais c'est juste le bout d'une cuillère. Et à un moment, il y en a un, j'étais un peu en surpoids à l'époque, je suis toujours, mais encore un peu plus, et il m'a dit, surcharge pondérale, débarrassons-nous de ça. Et il m'a pris le gras du bide et il a tourné. Et ça fait mal. Putain. Et ça fait mal, cette connerie, j'ai eu un bleu pendant 2 semaines.
Est-ce qu'il te l'avait dit avant que tu...
Non, il ne l'avait pas dit. Et effectivement, ça a pris par surprise. Et notamment... Dans le LARP, il y a ce système de sécurité en fait, qui est là, qui est mis en place dans n'importe quel LARP qui est bien fait, où c'est... voilà, tu as moyen de dire stop pour n'importe quelle raison. Le sujet qu'on utilisait, c'était vert, jaune, rouge. Vert, c'est... Dans le général, vert, c'est une question, c'est est-ce que ça va? Et si on te répond vert, dans ce cas, oui, voire tu peux y aller un peu plus. Notamment si tu veux jouer la romance ou une altercation en public, tu vois, ce genre de choses, ça peut être sympa. Jaune, c'est pas plus. Ça va, mais pas plus. Donc, on n'escalade pas. Mm. Et rouge, si quelqu'un te dit red en plein milieu de jeu, ça s'arrête. Zéro question, zéro argument. On arrête, on te laisse. On peut éventuellement te demander est-ce que tu veux de l'aide ou est-ce que je m'en vais. Et tu laisses ça tranquille. Justement pour protéger par rapport à ça. Et ça peut être par rapport à n'importe quoi. Ça peut être parce que bah, une altercation et que toi, t'as vraiment pas envie d'avoir quelqu'un qui te... Mm. qui te gueule dessus, donc tu te sens mal à l'aise, t'arrêtes ça. Ça peut être quelqu'un qui joue la romance et qui s'approche vraiment trop près pour t'embrasser, t'arrêtes ça, tu vois, ce genre de choses. Mais dans le cas présent, j'aurais pu dire rouge quand le mec il m'a attrapé le bide, mais j'ai complètement oublié, en fait. Sous l'intensité du moment, avec la musique, avec tout ce qui se passe en même temps, j'ai complètement oublié l'existence de ces sécurités. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut, surtout pour ceux qui rentrent dans ce genre de jeu et qui n'ont pas l'habitude, qui peut facilement être... Bah, au final, tu as des sécurités auxquelles tu ne penses pas, donc c'est comme si c'était pas...
Il y a aussi à quel point, quand tu es dans un personnage, tu veux interrompre le truc pour ne pas embêter les autres, j'imagine, pour ne pas interrompre la scène, pour ne pas
aussi, être le gros boulot qui... Tout à fait, ouais. Il y a ça aussi, tout à fait.
La pression sociale, quoi.
Il y a ça aussi.
Je sais qu'en JDR, il y a une méthode que j'aime bien là-dessus qu'on appelle le parrainage, où en fait, bon, ça marche mieux quand on est présent à une table. c'est chacun à sa charge, genre le joueur à sa droite. Okay. Qui fait que toi, tu es en train de faire ta scène, puis tu regardes le mec à côté à droite, tu fais « Ah non, là, clairement, il est dans le mal et tout », et tu fais « Ça va, est-ce que tu veux qu'on continue ?» Comme ça, c'est pas toi, quand t'es dans le mal, qui arrête, c'est la personne à côté qui s'occupe de toi. Et ce qui fait qu'en plus, je sais que moi, en tant que jeu, des fois, t'es parti, t'es sur ton autoroute de l'horreur, là, et t'es en train de créer une scène atroce, et t'oublies.
Ouais, bah,
super
ouais,
idée, ça. C'est une super idée d'avoir quelqu'un d'autre que toi qui fasse ça, parce que du coup, ça...
Oui, quelqu'un qui soit extérieur à la scène, qui puisse se rendre compte de ce qui se passe.
Complètement.
Parce que des fois, même toi, en tant que joueur, genre, si t'as un truc qui est pas agréable pour toi, vu que t'es dans ton personnage ou quoi, tu te rends pas compte que ça... En fait, ça affecte pas ton personnage, mais ça affecte toi. Et du coup, bah, ça va, mais une demi-heure après, une heure, deux heures, quatre heures, t'es en mode « Oui, quand même !» ça... Ok, ça m'a marqué.
Et c'est vrai que dans le LARP, il y a ce style de LARP qui s'appelle le LARP nordique et qui se différencie en fait du LARP classique par le fait qu'il est beaucoup moins orienté action, beaucoup moins orienté combat, armes, etc. Et beaucoup plus émotion, interaction sociale et trauma. Et notamment, il y a ce dicton qui dit que dans un LARP nordique, si tu ressors pas en pleurant toutes les larmes de ton corps, c'était pas un bon LARP. Donc les gens, ils vont clairement pour se faire mal, quoi, et pour aller volontairement taper dans des trucs durs et se mettre dans des positions sociales compliquées. Mais au final, tu peux jamais vraiment être trop sûr de comment ça va se passer, et tu peux penser que tu veux ça et en fait, ça te va pas le jour même, ça te va pas, tu vois.
Quelqu'un sur le Discord avait dit de pas avoir de trigger warning, c'est un privilège. Mais quelque part, j'allais dire, moi aussi, j'aime bien ce côté LARP nordique, j'en ai jamais fait, mais cette idée, des fois, où je suis confrontée à des trucs qui me terrifient, parce que je sais qu'on est dans une expérience... je sais pas moi, tu vois, j'incarne un personnage, j'arrive à faire la différence, je suis pas ce personnage. Par contre, il y a des trucs qui me terrifient, comme tout le monde, j'ai aussi mes traumas, tu vois, mais j'ai un petit peu cette fascination aussi pour... une fois, en fait, par exemple, j'ai fait un Cthulhu, avec quelqu'un qui m'a vraiment mis dans l'ambiance du Cthulhu, et vraiment il y a des moments où j'ai gasp, tu vois, si je me rappelle, il y avait une scène horrible où j'étais censée être dans un bain et il y avait un œil au-dessus sur le plafond et tout, juste des trucs mais vraiment dans l'ambiance avec une musique de fond, et j'adorais cette idée en fait d'être un peu traumatisée alors que c'est une expérience, parce que c'est quelque chose que tu ressens, tu vois, que tu peux vraiment ressentir que quand t'es mis dans une ambiance. Ouais. Et qui est unique justement au jeu de rôle, je trouve. Je disais aussi par exemple le personnage d'Arthur Morgan à la fin de Red Dead Redemption, spoiler alert, il se passe quelque chose pour lui qui est très triste. Je pense que si j'avais su à l'avance que tout du long, tu vois, tu t'attaches à ce personnage et qu'à la fin, le personnage il meurt. Tu perds le personnage, c'est traumatisant, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant plusieurs jours même, je dirais. Mais... j'ai trouvé que c'était une très belle histoire finalement qui m'a fait ressentir des choses que nulle autre histoire m'aurait fait ressentir si on m'avait mis en garde en tout cas à l'avance de...
Ouais, mais tu vois, à mon sens, les trigger warnings sont pas là pour édulcorer les choses. En fait, normalement, tu ne construis pas quelque chose en pensant à des trigger warnings. Normalement, tu construis ton œuvre et une fois que tu as fait ton truc, tu regardes et tu fais un « Ah oui, effectivement, là-dedans, il y a ça, et ça, et tu préviens. » Et tu préviens pas de manière aussi précise en disant... la fille d'Arthur Morgan, ou je sais pas, parce que je connais pas l'histoire, mais le truc qui est lié à lui, on va dire, il se fait écraser par un train.
Non,
j'espère que c'est pas
ça.
Désolé,
parce
que c'est ça.
C'est pas ça, mais en fait, je disais que quelqu'un avait parlé de la notion de bleeding, qui est que, apparemment, tu suis un personnage pendant longtemps que tu aimes bien, et qu'à un moment, le personnage, il meurt, et que c'est traumatique pour certaines personnes. C'est cette notion-là que je parlais de bleeding, de s'attacher à un personnage qui va mourir.
Oui, mais... Bon, oui, mais en fait, et j'arrête pas à parler.
Après,
j'ai chuté.
Je trouve que le cadre Red Dead est intéressant parce que, contrairement à beaucoup de jeux vidéo ou du jeu de rôle ou du LARP, tu parles du personnage par son nom. Il est une personne, il n'est pas toi. Alors que, on parlait de Baldur's Gate au début, à aucun moment on a dit mon personnage. On parle toujours de son personnage à la première personne.
Oui.
J'ai fait ci, j'ai fait ça en jeu de rôle, je fais ci, je fais ça. Et donc, il y a ce bleeding, bleed out où. Mon personnage en Baldur's Gate, ça fait quelque chose d'horrible. Et pendant un instant, j'avais fait quelque chose d'horrible. C'était... Alors, bon, pour le coup, c'était pas... Je savais ce que j'avais signé. Comme on disait que j'y allais un peu pour ça. C'était horrible, j'ai apprécié, entre guillemets, je trouve ça intéressant. Mais dans le cas de Red Dead 2, sinon, tu ne te joues pas toi, tu joues pas quelqu'un, tu joues un autre personnage.
Oui. C'est comme un ami, tu vois, que tu suis au fur et à mesure, tu apprends à le connaître.
Mais déjà, t'as un peu de distance. Tu...
Oui, c'est vrai. Après, j'ai jamais fait vraiment de LARP et tout, donc je crois que je serais même incapable de faire un LARP où je joue la personne, mais je pense que j'arriverai à mettre de la distance après.
Il y en a qui sont très bons pour ça, hein, pour jouer des gros connards, pour être hyper dur, hyper méchant, ouais. Alors qu'ils sont adorables juste à côté. Il y en a qui sont très bons pour ça. Et c'est choquant d'ailleurs. Et quand tous les épisodes de la Witcher School commençaient avant par 2 à 3 heures de ce qu'on appelait les workshops, donc qui t'expliquaient effectivement les règles du jeu, comment ça allait se passer, et dont une partie dédiée en fait à ce genre de choses et ce qu'on appelait le bleed, effectivement. Alors en fonction du média, le bleed va avoir des noms différents. Pour nous, dans l'ARP, le bleed, c'était que... Enfin, effectivement, la différence... Il y a le bleed in and bleed out, comme tu le disais, Levette, où il y a la dose de toi que tu mets dans ton personnage et la dose de ton personnage que tu ramènes avec toi. Et c'est notamment cette deuxième partie qui est d'autant plus dangereuse parce que tout ce qui se passe à ton personnage ne s'arrive pas à toi. Et si ton personnage tombe amoureux, ça peut être très, très dur qu'une fois que le jeu est fini, que tu n'aies pas envie d'aller voir la personne et de lui déclarer ta flamme. Très dur. De la même façon, si t'as un personnage qui est un gros connard avec toi, ça ne veut pas dire que c'est une méchante personne et ils nous encourageaient même vraiment. Après le jeu, s'il y a quelqu'un avec qui vous avez eu une relation très compliquée pendant le jeu, enfin vos personnages ont eu des relations très compliquées, allez leur parler, allez discuter, boire un verre ensemble pour voir à quel point la personne est différente de son personnage. Mais c'est beaucoup plus facile quand le personnage est quelqu'un de très mauvais. Parce que rares sont les personnes qui sont aussi mauvaises en fait dans la vraie vie, ou en tout cas aussi ouvertement. Mais quand on tombe sur quelqu'un en jeu qui est adorable, qui est trop, trop sympa, qui est tout le temps là, où il y a plein de trucs en commun, et que le jeu est fini, cette personne est toujours très sympa, et toujours adorable, et il y a toujours plein de trucs en commun, c'est plus dur. Mais ouais, ce bleed vraiment peut être très violent, et avec les choses qui se passent à ton personnage, déjà ton personnage va te manquer, ça va te manquer, ça va être dur de ne plus être cette personne, les amis de ce personnage vont te manquer à toi, parce que bah, t'as mal le temps que tu passais avec eux, et ce qui s'est passé à ton personnage, que ça soit des traumas négatifs ou que ça soit des bonnes choses, vont aussi prendre du temps à être digérés. Mais c'est vrai que si t'es préparé à l'avance en mode effectivement ah, attention dans ce jeu tu vas vraiment, on va t'en mettre plein la gueule, ou tu vas être insulté, etc. Peut rendre les choses plus faciles, mais je trouve personnellement moi toujours que ça enlève vraiment énormément de saveur au truc, parce que bah, voilà, c'est pour moi c'est du spoil, et comme je disais, c'est que si on prévient de ce qui va arriver, ça perd l'intérêt. Et ce que tu disais, Sky, que les auteurs, ils créent leur œuvre d'abord sans penser au trigger warning et ils les rajoutent après. On s'est fait la réflexion, je ne sais plus si c'était juste avant de commencer l'enregistrement ou pas, mais que dans la littérature, il n'y en a pas de trigger warning, qu'on sache. Hein, mais qu'il y en a énormément dans les fanfictions. Quand dans les fanfictions, je vois marqué en haut « mort de personnages principaux », parce que c'est un trigger warning, je suis là en mode « mais bah, ça a rien que la lise maintenant, franchement ». Si l'idée, si le twist ou si l'enjeu, c'est la mort ou la vie de quelqu'un,
Non, mais après, il y a différents niveaux, parce que déjà, pour moi, je trouve que mort de personnage principal, c'est un peu précis. Moi, je mettrais juste mort, tu vois, en classique. Mais ensuite, moi, je trouve que ça spoil pas forcément, parce que, enfin, ça te spoil qu'il y ait une mort, oui, mais moi, je lis pas juste... moi, j'adore les morts de personnages principaux, globalement. Je trouve que c'est un truc incroyable.
Non, c'est étonnant.
Mais, par exemple, genre... Oh, je vais spoiler la ligne verte.
Oui. Ça va. Ça va, voilà, il est assez vieux pour que tu puisses.
Le film a genre 40 ans. Si vous voulez pas entendre, désolé, skipper de 3 ou 4 minutes. Le personnage du prisonnier meurt à la fin. Et moi, j'ai été voir le film et je savais qu'il allait mourir. Et j'étais en mode, je vais le voir parce que c'est censé être une masterclass et tout, machin. Et du coup, ça m'affectera pas, c'est cool. Et en fait, j'ai quand même chialé mes grands morts 4-5 fois quand il est mort, parce que ce qui compte, en fait, le spoil n'est pas dans sa mort, c'est la manière dont c'est amené, la manière dont c'est joué, tu vois. Et du coup, moi, je m'en fous un peu qu'on me dise... Alors, des fois, ça me casse les couilles, évidemment, genre que je sois spoil d'un truc, mais c'est pas l'événement qui compte, c'est le voyage. Alors, ça fait très romantique à la con de dire ça, mais moi, c'est tout ce qui fait que ça a été amené. Et en plus de ça, genre, si c'est mort de personnage principal, bah ouais, mais lequel, tu vois. Et si l'auteur est un peu... malin, entre guillemets, il peut jouer avec ça.
Ouais, mais sauf que dans ce cas, ça implique qu'il ait pensé au trigger warning avant d'écrire l'œuvre.
Bah oui, mais du coup, en fait, si tu veux faire des trigger warning aussi précis que tu veux les mettre, autant que tu les prévois. Mais en fait, c'est en vrai, tu vas pas aseptiser, tu vas jouer avec. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, tu vois. Tu peux créer sans, que... tu peux créer pour, en condition
de... Qu'est-ce que t'en penses, toi, Velvet, qui est en train d'écrire ton propre jeu de rôle en ce moment?
Alors, j'en pense déjà que pour rebondir sur ce que disait Sky, les deux des œuvres qui m'ont le plus marqué dans ma vie, au début, on te donne la couleur, t'as le tombeau des Lucioles.
Oui.
Ça commence, le mec dit, c'est aujourd'hui que je suis mort. Tu fais, ok, est-ce que ça vous a empêché de pleurer? Je ne pense pas. Et l'autre qui est... Tu vas pleurer.
C'est prévu, c'est prévu.
Et le deuxième, c'est Des fleurs pour Algernon. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre.
Non,
j'ai entendu parler.
Et le quatrième de couverture raconte tout le livre. En gros, on suit une personne qui a des problèmes mentaux, qui est, il y a sans doute un terme plus scientifique, mais qui est bête mentalement. Mmh. Et il y a des scientifiques qui lui injectent un produit qui augmente ses facultés cognitives au-delà de ce que l'humain a. Et en fait, ils ont fait ça avant une souris, la dénommée Algernon, et les facultés de la souris montent, puis à un moment, recommencent à redescendre. Mm. Puis elle meurt. Et ça, c'est le quatrième de couverture. Le quatrième de couverture, t'as raconté tout le livre, et en fait, c'est encore plus horrible.
Ouais, mais c'est parce que l'intention dans l'écriture, elle est que tu découvres le chemin en ayant connaissance de la fin. Ça, c'est l'intention de l'auteur dès le départ. Pour reprendre l'exemple de la ligne verte, et tu ne le sauras jamais... Mais tu peux essayer d'hypothéser. Est-ce que tu ne crois pas que ça t'aurait marqué encore plus et que tu aurais chialé encore plus si tu ne savais pas en commençant si oui ou non il allait survivre? Si tu avais la question de sa survie dans la balance tout le long.
Non, mais en fait, moi, le truc, c'est que ça m'aurait sûrement. En fait, ça m'aurait plus surpris. Est-ce que ça m'aurait plus marqué? En fait, je suis déjà très marqué par ce film, mais pour plein d'autres médias auxquels je pense, je suis en mode ça m'aurait sûrement plus surpris, mais en fait, qui me surprend ne me marque pas forcément. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, je vois, mais...
En fait, je me demande si la qualité d'une œuvre est détruite par le simple fait qu'il y ait un trigger warning qui... En fait, pour moi, c'est pas un bon truc, tu vois. Je me demande si juste le fait de me dire il y a de la drogue dans ce bouquin, ça me détruit le bouquin, c'est que c'était pas le problème du trigger warning. C'était le problème de l'auteur. Il était claqué au sol.
Oui, clairement, je suis d'accord avec toi, Sky, pour ce point-là.
Et ouais. Du coup... C'est pas grave, et en fait, moi en fait, je reviens sur le fait que pour moi, c'est pas des trigger warnings, c'est des content warnings, et c'est. Il y a ça dedans. Voilà, il y a ça dedans. Ouais. Fais ce que tu veux. Et tu sais pas à quel ordre, tu sais pas quand, ça se trouve, c'est une mort instante, ça se trouve, c'est une mort à 20 chapitres plus tard, ça se trouve, c'est une mort dans le prochain livre, parce que l'auteur il était trop smart, et en fait, il y en a pas dedans, et tu vois, je suis juste en mode, c'est pas grave, parce que, et si je l'en veux pas, je les regarde pas, et je fais abstraction.
Je suis curieuse de savoir si dans vos jeux, il y a déjà eu des joueurs qui ont dû interrompre la partie par rapport à ça. Toi, Velvet, de ton côté avec tes joueurs, ou toi, dans le lard. Toi, t'es parti déjà?
Ouais. En gros, c'était des boucs qui avaient recruté sur un serveur Discord où j'étais pour faire du JDR. Et nous, ça nous chauffait de fou avec des potes parce qu'on était en manque de JDR. Et en gros, ils avaient un concept qui était trop cool, pour le coup, qui était en gros le maître de jeu, ils étaient deux ou trois. Et en gros, c'était des maîtres de. Ils jouaient le rôle du maître de guilde. Et en fait, nous, on était des explorateurs. Ils nous envoyaient en quête et tout. Et en gros, chacun amenait sa petite pierre à l'édifice. Et ça faisait vraiment bouger toute la géopolitique du continent qu'ils avaient créé. Élever la guilde. La guilde avait des ressources. Et du coup, c'était un espèce de. Du genre de MMO, tu vois. En mode, chacun participe à sa pierre à l'édifice. Et c'était vachement cool. Sauf qu'en fait, les bugs étaient extrêmement racistes. Et en gros, les trois premières séances, c'était genre des blagues déplacées hors RP. Et on était beaucoup plus jeunes. Et nous, on était en mode, en vrai, c'est pas grave. Parce que quand on joue, c'est cool, tu vois. Et c'est un peu des connards, mais. Vas-y, on n'a pas de JDR et le concept est bien, c'est relou, on a envie de continuer. Et pendant que c'était le JDR, il n'y avait pas de problème. Et vu qu'on était un peu naïf, on était en mode, vas-y, on continue. Et sauf qu'au bout d'un moment, quand ils se sentaient plus à l'aise, entre guillemets, avec nous, les blagues limites, elles étaient dans le jeu de rôle. Et au bout d'un moment, on a fait, non, mais en fait, non, on veut pas de ça, genre, c'est trop, cassez-vous, vous êtes des connards, et on s'est barré, tu vois, parce que c'était vraiment abusé. C'était des trucs qui nous cassaient les couilles et ça cassait les... En plus, ça cassait l'immersion, enfin c'est vraiment il n'y avait aucun point positif,
en plus d'être un gros bâtard, il pourrissait l'expérience.
Oui mais du coup tu vois c'était une forme de en fait eux ça les faisait rire et ils étaient en mode c'est pas un problème et j'étais en mode aborder des... Enfin, non, ils abordaient pas les thématiques, je sais pas.
Je comprends que ça donne envie d'arrêter et de dire c'est bon les gars.
Mais là, et du coup, on a un peu claqué la porte, et on les a report, et on est en mode, il y a ces bougs-là qui sont chelous de fou, et voilà. Mais oui, c'est pas... Mais en fait, le problème, c'est que du coup, ils faisaient des blagues là-dessus, en mode... Genre, tu sais, c'était vraiment les drôles de Donjons et Dragons prototype, en mode, oh, regardez, lui, sa couleur de peau, oh, c'est un fils de... Et t'es en mode, bah non, ça marche pas comme ça, en fait.
Et toi...
Tu me dis qu'il a, s'il a volé, fait des trucs et tout avant, je veux bien comprendre, mais là c'est quand même vachement somatique.
Et toi, Velvet, est-ce que ça t'est déjà arrivé avec des joueurs?
Ça m'est déjà arrivé dans une partie d'un jeu d'horreur, où je suis parti sur une description un peu trop détaillée, on va dire, d'une amputation, sans savoir qu'un de mes joueurs avait eu un proche qui avait eu un accident de voiture, un problème comme ça, justement, et que on m'a donné le... Là, il y a cette méthode, la carte X, qui permet de dire on s'arrête là. Mmh. Et donc, je fais OK, on s'arrête, mais la description, tu arrêtes, j'arrête, OK, on a pris 5 minutes. On a pris 5 minutes, on allait boire un coup, on allait faire autre chose, puis on revient, on fait OK, on est la scène d'après.
Ok. Histoire de décompresser. Sans drama, en fait, juste.
Ouais, juste tu décompresses, tu penses à autre chose et on skip le problème.
Voilà,
et...
c'est vrai qu'on n'est pas obligé de le prendre personnellement si quelqu'un arrête ta partie. C'est la bonne réaction à avoir, je pense.
Le truc et la règle de base, que ce soit en LARP ou en JDR plateau, c'est don't be an asshole. Soyez pas un connard.
Bah oui.
Mais ça s'applique pas à ton personnage, ça s'applique à toi en tant que joueur. Non, mais surtout, ça s'applique pas à ton personnage, ça s'applique à toi en tant que joueur ou en tant que MJ. Ton personnage peut être un gros connard, ça peut faire partie du truc. Mais si on te dit stop.
Juste stop.
Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est stop, ok. Et effectivement, on fait une pause, et puis on passe à la scène d'après. Et c'est de la décence, en fait.
C'est du respect et de l'empathie. Et là, on disait juste avant, on a beau débattre sur le trigger warning et nous faire l'avocat du diable, etc. De temps en temps, on abuse un peu, mais en vrai... C'est juste, si t'es socialement intelligent, tu vas comprendre que les règles dans la vraie vie s'appliquent, même dans le jeu de rôle aussi, que si quelqu'un te dit de stop, si quelqu'un te dit je suis pas confortable avec ça, en fait, et juste un petit peu d'empathie et de respect pour la personne, et arrête.
Et,
quoi, c'était pas
et par exemple, cherchez pas de justification. C'est un truc à la con, mais je peux comprendre. Je suis extrêmement curieux, j'aime bien savoir les raisons de tout, mais il y a des choses où t'as pas besoin de savoir la raison. S'il y a quelqu'un qui dit stop, ça me va pas être en mode bah pourquoi, parce que c'est vraiment t'as un couteau qui commence à se planter, toi t'arrives et tu fais je trifouille et je veux chercher, je veux comprendre là,
Ils insistaient vraiment là-dessus dans les workshops, c'est si quelqu'un dit le mot rouge, ne demandez pas ce qui va pas. Juste demandez si vous pouvez aider, c'est la
seule question.
Mais allez pas chercher, allez pas dire ah, qu'est-ce que j'ai fait machin, vous pouvez éventuellement parler après le jeu dans deux jours. Parce que c'est pas mal aussi d'avoir des feedbacks en mode je sais pas ce que t'as fait de mal, ça peut être bien aussi pour toi d'apprendre. Mais sur le coup, vous partez ou vous demandez est-ce que je peux t'aider ? Non ? Très bien.
Globalement, quand quelqu'un est en mode au secours, faut arrêter, c'est que genre la casserole elle est pleine d'eau bouillante et c'est en train de déborder. Donc tu peux pas arriver et faire un truc, faut laisser la pression redescendre, faut que ça se stabilise. Et une fois que c'est là, tu pourras éventuellement essayer de faire des trucs. Mais il y a un moment, faut que l'eau se calme, faut que ce soit reclair et que ce soit tranquille.
Ouais, d'accord.
Enfin, dans ma tête, comme ça je le vois.
Je suis d'accord.
Un métaphore à la con.
Je crois que l'eau, il n'y a pas de pression, mais je vois l'idée.
Si, il y a de la pression. Si, parce que moi je fais bouillir l'eau avec mon couvercle.
Ah oui, avec le.
Il faut retirer le couvercle, il faut laisser la pression s'échapper, que ça. Tu vois, c'est ça que je. Ouais, j'ai oublié de parler du couvercle, mince.
Du coup, des petits tips à implémenter pour vos parties de JDR, par exemple, toi, la technique Matt du vert, jaune, rouge, c'est pas mal. Est-ce que vous avez d'autres techniques pour arrêter justement le jeu de rôle facilement?
Alors, il y en a plein qui existent. Il y a la carte X dont j'ai parlé, qui est dans les faits en physique, c'est une carte avec marqué X dessus. Et si tu te sens pas bien, tu touches la carte.
Ah d'accord, c'est au milieu de la table en gros, c'est le buzzer.
Au milieu de la table et tu touches la carte et c'est bon. C'est tu dis rouge, mais t'as même pas besoin de le dire.
Ouais.
Et après, t'as des méthodes qui peuvent paraître totalement bêtes et communes, mais ouais, demander une pause. Et d'ailleurs, on parle souvent d'interaction entre un personnage et un autre, mais même, imaginons, on fait une partie à quatre et il y a un jeu qui interagit avec un autre personnage et moi, cette scène me met extrêmement mal à l'aise. Je peux dire, on fait une pause, je m'en vais. Mais on en revient souvent quand même au fait de stopper la partie.
Certaines personnes osent pas, en fait. Du coup, ces items-là, ils permettent. Parce que certaines personnes veulent pas être le relou qui stoppe la partie. Donc...
C'est un peu le défaut du truc, effectivement, c'est que en soi, c'est normal que le bien-être, enfin, ça reste un jeu, quoi. C'est normal que le bien-être d'une personne passe avant le jeu, surtout pour 5 minutes. Mais malgré tout, avec la pression sociale, les gens qui oseront pas parce qu'ils veulent pas être le relou, parce qu'ils veulent pas embêter les autres, et le fait que ça implique de poser le jeu est une limite à l'utilisation même de cette mécanique.
Bah, d'où l'idée du parrainage où justement toi tu te rends compte que celui à côté mal, là ouais. Il est vraiment pas bien.
Le parrainage c'est très bien.
Après c'est bien quand des gens se connaissent un petit peu parce que c'est dur de parrainer quelqu'un que tu... Mm. Ou même se souvenir que la personne au début de la partie a dit qu'il supportait pas telle ou telle chose, que voilà il était arachnophobe. Mm. Le jeu a oublié, bah, toi c'est ton rôle de te souvenir que ton voisin il est arachnophobe et... En lâchant des exemples un peu bêtes qui sont évidents, mais des fois on peut aller dans des détails plus. Puis c'est un petit détail sur la trigger warning aussi. C'est pas quelque chose de constant. Ce que je veux dire, c'est pas parce que aujourd'hui t'as ton. Bah là, je vois le chat de Matt. Le chat de Matt, il est extrêmement malade. Il est au veto. Matt n'est pas bien et tout. Et il peut dire, bah aujourd'hui dans notre partie, est-ce qu'on peut éviter de maltraiter les animaux parce que ça me ramène trop à ma situation vraie.
Ça m'est arrivé en fait, ça d'ailleurs, c'est un LARP que j'ai joué qui s'appelait Together at Last, qui était un dating sim dystopien, où en gros tu étais mis dans un monde où tu ne pouvais avoir qu'un seul partenaire, et c'était un algorithme qui te présentait trois personnes, et à la fin de ces trois dates, on t'assignait ton partenaire pour la vie. Et en fait, ça s'est passé à un moment où j'étais pas très bien, et j'ai dit au début du jeu. On avait un peu de temps pour discuter avec nos partenaires de jeu à venir au début. Et on se posait la question, est-ce qu'il y a des trucs que tu veux surtout pas jouer, autre chose. Et j'ai dit, écoute, là, en ce moment, tous les termes de tromperie et de d'infidélité, ça, si on pouvait éviter ça. Puis au final, ça s'est passé quand même. Et effectivement, j'ai pas passé un très bon jeu, quoi, parce que c'est tombé vraiment... Alors que ça se passerait maintenant, il y aurait aucun problème.
Et
tu
l'as pas interrompu, ça, du coup, quand ça s'est passé.
Et puis surtout, c'est que c'était pas aussi évident qu'un truc qui se passait juste devant toi, tu vois. C'est que effectivement, dans le cas présent, c'était l'une des personnes que j'avais rencontrées, enfin, qui m'a été matchée, entre guillemets, avec moi, et que j'avais bien apprécié. D'ailleurs, la différence entre est-ce que c'était moi ou mon perso qui l'a bien apprécié, elle est très floue. Et qu'en fait, j'ai appris derrière que pendant qu'on était dans notre date assigné par l'IA, qu'en fait, à un moment où j'étais allé faire autre chose, elle était partie avec un autre mec pour aller flirter en secret dans le jeu, tu vois. Je l'ai hyper mal pris parce que c'était pas le moment pour jouer ça, quoi, pour moi. Alors que la personne, elle y pouvait rien, mais je l'ai appris après, donc je pouvais pas non plus mettre le stop parce que j'en savais rien. Donc c'est effectivement c'est très variable d'une période à l'autre, d'un jour à l'autre.
Oui, bien sûr,
ouais. Et c'est fluctuant, c'est changeant. C'est ça, parce qu'un jour c'est ok, que l'autre jour c'est ok, parce que des fois t'as la force, des fois t'as pas la force, des fois t'as ça qui s'est passé, t'as pas ça qui s'est passé. Ouais,
c'est comme un film. Aujourd'hui je suis chaud, je vais regarder ce film d'horreur là. Il y a des moments et il y a un autre jour tu fais non pas aujourd'hui s'il vous plaît.
Tu veux juste un film romantique avec de la crème glacée et basta.
Aujourd'hui je vais regarder 10 épisodes de Malcolm, mais boum.
Ouais,
et boum, il y a des lapins qui meurent et tout.
Ouais, mais c'est Malcolm, donc ça va.
Oui. un petit dernier mot sur le trigger warning que t'aimerais faire passer avant qu'on fasse un petit tour de reco.
Je crois que c'est la ce qu'on a dit, c'est soyez pas un con, quoi.
Ouais, soyez pas un con. Ayez de l'empathie en général.
Ayez de l'empathie si vous faites du jeu de rôle et si vous êtes un créateur de contenu, souvenez-vous que un trigger warning, c'est pas enlever du contenu, c'est dire que ce contenu existe.
Ouais.
Oui.
Et ou alors jouer avec.
Voilà. Voilà,
aujourd'hui, il y a plein de façons de pouvoir arrêter, enfin de donner des items ou de donner des permissions aux gens d'arrêter à tout moment l'expérience, quoi. Donc c'est cool.
C'est vrai que c'est quand même l'avantage d'un jeu vidéo, d'un livre ou d'une série ou d'un film. Ça ne va pas. Tu fermes les yeux et puis tu presses fast forward, tu peux le sauter. Ce que tu peux pas forcément faire dans une partie de jeu.
J'ai déjà quitté une fois une soirée à cause de gens qui voulaient mettre des films d'horreur. Petit tour de reco parce que du coup comme c'est une marshmallowerie on va faire les reco à la fin.
Ouais, cool.
Be your guest, Velvet, tu vas commencer. Est-ce que t'as une petite reco pour nous, un truc qui t'a plu cette semaine?
Alors j'ai dû faire le tri de tout ce qui m'avait plu, c'est ça. Et je vais rester, vu qu'on m'a invité en tant que rôliste, je vais recommander un jeu de rôle qui est City of Mist. J'en ai déjà parlé sur le Discord. C'est un jeu de rôle très Percy Jackson, tentant de le vendre à Sky, où on incarne des personnes de tous les jours, Bob le comptable. Janine, la femme de ménage ou n'importe quoi, qui se retrouve investie, bon gré mal gré, par une légende, le roi Arthur, Gilgamesh, la sorcière des contes de fées, et qui doivent jongler avec ça, genre qu'est-ce qui est le plus important, leur vie de tous les jours, ou est-ce qu'ils essayent de suivre la légende qui est en eux, tout ça dans une cité qui est, dans une, on dit une ville en français, dans une ville qui est recouverte d'une espèce de brume, ce qui fait que ça cache le magique au mortel.
Je veux, need.
Ouais, je sais.
Jouer.
Est-ce que c'est un one-shot ou est-ce que c'est une campagne?
C'est un jeu. C'est un système de jeu. Il y a des one-shots, il y a des campagnes. Et c'est un système de jeu très fun parce qu'il n'y a pas de caractéristiques chiffrées.
Ok, oh. Trop bien.
C'est tout ce jeu où t'as des caractéristiques et t'as des tags. En fait, genre, tu es un détective privé. Parmi tes tags, t'as ton flingue. Donc, t'as le tag pistolet, le tag tireur d'élite, le tag ne bouge jamais sa cible. Et quand tu vas pour tirer sur quelqu'un, tu fais, j'utilise mon pistolet. J'utilise le fait que je suis un tireur d'élite. Ça me donne un bonus de +2. Et...
Donc tu peux jouer avec tes justifications en mode ouais, mais je suis tireur d'élite, donc si pour lancer cette canette super loin, je suis plus précis parce que je m'entraîne. Ok, c'est rigolo, j'aime bien.
Trop cool. Et puis du coup, petite pub, si vous voulez jouer avec Velvet, c'est un très bon maître de jeu.
N'hésitez pas à venir me voir, j'ai toujours envie de jouer.
Il a toujours il réclame des parties JDR sur le Discord, tout le monde est toujours occupé, donc
c'est le malheur du JDR.
Sky, ouais. En ce moment, je lis un webtoon. Il y a un trigger warning dans le nom. Il s'appelle SSS Suicidal Class Hunter.
le meilleur webtoon pour recommander dans des épisodes TW.
Alors, en fait, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais en ce moment? Je me fais de la grimpe, mais ça, vous êtes au courant. Je joue à un jeu que j'ai déjà reco, et du coup, je lis ça. Et en vrai, c'est très cool, c'est très intelligent d'écriture. Il y a plein de choses qui me surprennent. Et j'aime trop ça parce que j'ai beaucoup lu, beaucoup regardé de séries, de films, et j'aime beaucoup décortiquer les scénarios et les décrypter. Et du coup, au bout d'un moment, je suppose que je suis pas le seul, mais t'as une espèce de lassitude qui arrive en mode ah, c'est ça qui se passe, je m'en doutais, je savais. Et là, souvent, je suis en mode oh, c'est ça qui se passe, oh, je savais pas, c'est trop bien.
Et bon, pas twist alors.
Et ouais, et en fait, c'est smart. Et en fait, le gars, c'est une espèce de power fantasy un peu classique. Il y a une tour à grimper en mode, il y a la tour de la fin du. Enfin, c'est un truc classique de webtoon. C'est il y a la tour de la fin du monde. Si l'humanité arrive pas à grimper à l'étage 100, c'est fini. Du coup, il va grimper. Et en fait, tu suis un loser. Le gars est là, au fin fond de la tour, il est en mode, j'arrive pas à grimper un étage, je suis nul. Il est full jaloux d'un gars, et un jour, il obtient son skill de rang SSS. Donc le meilleur, le plus grand niveau. Et il regarde son sort, et son sort, c'est, quand tu te fais tuer par quelqu'un, tu voles une de ses capacités. Il est en mode, c'est claqué au sol, parce que quand je meurs, en fait, donc c'est nul. Mais en gros, il va rencontrer son idole. C'est le premier chapitre, hein, c'est assez dense. Il rencontre son idole est un connard fini. Ce connard fini le tue. Et du coup, il vole un de ses pouvoirs. Et le pouvoir qu'il vole, c'est le jour où vous mourrez. Enfin, quand vous mourrez, vous revenez 24 heures en arrière. Et là, ça part en couille. Parce que du coup, à chaque fois qu'il meurt, il peut voler un pouvoir. Enfin, il vole qu'une fois un pouvoir d'une personne. Mais quand il meurt, il revient de 24 heures en arrière. Donc, son pouvoir est effectif. Et il se passe des dingueries scénaristiques. Et c'est vraiment, vraiment surprenant et vraiment très cool.
Mais je pense que ça peut être direct à mettre ça dans ma liste.
Bon, attends. Franchement,
j'aime beaucoup. C'est très cool. Il y a des trucs assez surprenants. Il y a des trucs un peu. Enfin, genre une des premières idées qu'il a est une idée de dégénéré. C'est une idée de gamer en fait. C'est une idée d'un mec qui est là en mode j'ai ce pouvoir là, à quel point je peux l'exploiter au maximum. Et il fait un truc qui est en mode ah ouais, genre. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Et là, c'est bientôt à la fin de la saison 3. Et c'est très très cool. J'aime beaucoup.
Faut que tu m'envoies le truc parce que il est peut-être pas sur Webtoon.
Non, il n'est pas sur Webtoon. Ah, moi, j'ai des moyens. J'ai un cousin du Canada très efficace pour envoyer de la lecture.
Il est gentil. Hein. On l'a tous.
Super sympa.
On l'a tous, ce cousin. Mais et c'est pratique parce que du coup, comme ça a l'air d'être génératif, enfin, il peut faire chaque épisode en fait ce qu'il veut, quoi. Il peut continuer et faire ça.
Il peut faire ça, mais plus en gros, son but, ça va être
le scénariste, je veux dire, peut faire.
Ouais.
Vraiment.
Il y a des. Mais en fait, le personnage, du coup, est très weird parce que il va très vite faire une action qui va énormément le trauma et le déshumaniser, et du coup en fait il est un peu en mode j'ai un peu l'impression d'être un robot. Parce que je sais que je le ressens, en fait il a un rapport à la mort qui est extrêmement étrange. Parce qu'il est en mode c'est ultra douloureux, C'est horrible, mais c'est mon moyen de progresser. Du coup, et lui-même, il struggle avec ça. Et du coup, j'aime bien. Parce que c'est... En fait, ça rajoute un... Enfin, c'est tout un pan de l'histoire qui est restructuré. Et il y a quand même des enjeux, parce que le personnage a des moyens d'être effacé et pas mort. Et du coup, il est en mode, ouais, faut que je fasse attention quand même. Parce que, oula. Voilà, c'était ma petite reco dont j'ai beaucoup parlé au final.
C'est enthousiaste, ça veut dire que c'est une bonne reco. Matt, est-ce que t'as une petite reco?
Ouais, j'ai une petite reco Netflix, par une série qui s'appelle Bodies.
Ah, j'ai pas entendu parler.
Bodies, donc corps, donc trigger warning. Londres, Whitechapel, 1990, le corps nu d'un homme assassiné est retrouvé dans une allée.
Ah oui, c'est bon, je l'ai commencé.
Londres, 1942, sous les bombes allemandes. Un homme nu est retrouvé assassiné dans une rue à Whitechapel. 2023, Londres, Whitechapel, un homme nu est retrouvé assassiné dans une ruelle. 2045, un homme nu est retrouvé assassiné à Londres, Whitechapel.
Les exhibitionnistes à Londres.
Quatre époques, une seule victime. Voilà, quatre époques, une seule victime. Donc, en toute logique, y a en tout cas des espèces de... Un thème sur le voyage dans le temps. Puisqu'effectivement, c'est systématiquement le même. Mais j'aime beaucoup le casting. Il n'y a personne de connu, mais ils sont tous très bons. Je les trouve tous très intéressants. J'ai pas encore fini. Il me reste deux épisodes à faire. Donc, je peux pas vous dire au final si le plot est extraordinaire ou pas. Mais jusque-là, ça m'a quand même bien tenu en haleine. Donc, je trouve ça très chouette. C'est une mini-série. Je crois qu'il y a 8 épisodes sur Netflix. Donc, c'est pas très très long non plus. C'est plaisant et c'est intéressant. C'est un bon thriller.
Puis, ouais, voilà, j'allais dire, c'est un thriller, on aime toujours.
Et toi, Jacques-No, qu'est-ce que t'as pour nous?
Et ben moi, ma petite reco, je la dois grâce à la commu Discord, parce que
c'est un reportage sur une secte?
Non. Ça aurait été grâce à moi, à mes recherches fucked up. Parce que vous m'avez suggéré un bon roman de fiction la dernière fois qui s'appelle She Who Became the Sun, celle qui devint le soleil. Oui. Qui est une fiction qui se passe dans une Chine médiévale réinventée. Donc la carte est complètement réinventée, mais c'est la Chine. Et elle est conquise par les Mongols, donc j'imagine que c'est la Chine médiévale. Et en fait, tu suis une petite fille. Elle n'a pas de nom d'ailleurs, parce que tout du long, durant le premier chapitre, tous les personnages masculins ont un nom, mais elle n'en a pas. Et en fait, elle prend l'identité d'un garçon pour survivre, et je vous dis pas pourquoi ni comment. Du coup, trigger warning, encore une fois, ça reprend certaines valeurs culturelles chinoises un peu familiales, un peu sexistes, on va dire, aujourd'hui pour nous, avec nos yeux occidentaux. Et en fait, c'est comme ça, les mœurs ne sont pas questionnées, les petites filles sont traitées un petit peu comme des moins que rien, les femmes en général... alors que les hommes sont des personnages qui ont une identité à eux-mêmes. Et c'est un petit peu de ça dont on parle dans les premiers chapitres, surtout, mais après tout le long du livre. Et donc voilà, c'est dur par certains moments, mais moi ça m'a fait penser, en tout cas, j'ai deux amies qui ont des parents chinois et elles m'ont raconté des choses un peu similaires par rapport à leur enfance, donc ça m'a fait penser à elles pendant la lecture. Et en fait, mentalement, c'est aussi très bon pour moi parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas autant accrochée à un livre. Et je m'endors presque tous les soirs dessus. Encore hier soir, je me suis endormie sur mon bouquin. Et ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Ça fait du bien, c'est très doux. Et là, j'en suis à peu près à la moitié. C'est si bien écrit visuellement que normalement, je lis les mots un par un dans ma tête quand je lis. Mais là, j'ai directement les cinématiques qui m'arrivent. C'est tellement épique, toutes les descriptions, que j'ai les cinématiques qui m'arrivent.
En texte ou vidéo.
Voilà, c'est ça, j'ai l'impression de regarder un film en lisant mon truc, mais voilà, en tout cas, en ce moment, je suis pas en train de traverser une période très facile de ma vie, j'ai beaucoup de stress, et je suis en train de dévorer ce livre, et à chaque fois que je fais une crise d'anxiété, que j'ai des problèmes de souffle, le livre que je suis en train de lire en ce moment, ça me canalise, ça me calme, et ça me fait complètement oublier mes problèmes. Et c'est la première fois que ça m'arrive, donc je suis trop contente.
C'est trop bien.
Mais c'est trop bien. Je suis content. Je pense que le livre, là, il est arrivé à pic dans ma vie au moment où j'en ai besoin. Et du coup, je suis tous les jours en train de le lire et j'adore ça. Et voilà, je vous recommande Celle qui devint le soleil, c'est trop bien. Et allez-y, les yeux fermés.
Ah non, enfin, les yeux ouverts pour lire quand même.
Oui, mais les yeux ouverts et après qu'ils se ferment parce que c'est trop bien.
Les yeux mi-clos.
Les yeux mi-clos. Les yeux en mode Carla Bruni. Voilà. Comment c'était ces premiers épisodes des Marshmallory?
Moi je suis ultra perturbé d'avoir fait les recos à la fin, j'ai l'impression que là on va parler pendant une heure, mais à part ça, ça va, c'était cool.
Je me suis dit qu'il fallait renverser.
C'était quand même un épisode chargé, effectivement.
En plus, j'avais pas vu, du coup, ça m'a pris par surprise.
Je pense que le prochain Marshmallory, on fera un truc plus léger et plus.
Ouais, parce qu'on a quand même ouvert en disant ouais, on voulait faire un sujet un peu plus good vibes et tout, parler, ça va être cool. Le trigger warning.
Non, c'est bien, on a parlé des petites anecdotes, des LARP et tout ça, c'était cool.
Oui,
c'est vrai que c'est vachement bien.
Tu t'es fait tendre le bide.
Ouais, c'était. Oui, bon.
Ah, ça va être. Quand tu te tords le bide, c'est littéral en fait.
Ah oui, c'est... oui, j'ai eu un bleu pendant 2 semaines.
Alors, j'avais un contre-exemple que j'avais envie de te balancer dans la face, mais j'étais que c'était un peu.
Vas-y, balance.
J'ai cru comprendre qu'un de tes jeux préférés, c'est Hellblade, c'est Tsuna Sacrifice.
J'ai beaucoup aimé Hellblade, oui.
Il commence par un trigger warning.
J'en ai aucun souvenir.
Ça commence par attention, ça parle de trucs psychologiques, si vous êtes pas bien et tout.
Ah oui, peut-être, oui.
Ce qui, moi, m'a aidé, parce que moi, quand j'ai vu les visuels, j'ai dit, oh, bah, le nouveau God of War.
Ouais.
Et en fait, je fais, non, pas du tout, ok.
Ah oui, c'est pas dans ça.
Mais c'est vrai que moi, j'ai joué plus tard pour la sortie, je savais, en fait, déjà que ça va. Enfin, qu'on suivait une personne qui était atteinte du trouble psychologique.
Moi, non, et ça commence, t'as un écran noir avec un texte pour t'expliquer que tu vas en chier, et elle aussi.
Ouais, mais j'aurais trouvé même ça mieux encore sans le savoir, perso, mais tu vois.
Bon, ouais, du coup, je pense qu'il est temps de souhaiter une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne matinée, bon tout
ce
qu'on
fait. Il en a marre, Sky, il en a marre.
Il est rentré chez lui.
Allez, on éteint le feu. Des bisous, tout le monde. Merci, Velvet.
Merci à vous. Passez une bonne journée.